Pour l'amour de Sion, Israël, mythe et réalité. Bonjour, nous sommes Stéphanie Soufir et Michael Barzvi. Nous vous proposons une série d'émissions dédiées à Israël et au sionisme, à travers l'histoire, à travers les grands événements qui ont marqué Israël, les personnages qui l'ont façonné, les idées et les mouvements de pensée qui ont forgé cette histoire. Notre but est de comprendre, d'expliquer, de donner des faits et des éléments de réponse aux questions que tout le monde se pose sur Israël et sur le sionisme. Michael, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Aujourd'hui, nous avons une émission un peu particulière. Nous recevons une invitée, Ariane Ben David, qui va nous parler de l'image de l'arabe dans la littérature hébraïque et israélienne. Bonjour Ariane, bienvenue.
Bonjour, bonjour à tous les deux et merci de cette invitation.
Eh bien Ariane, nous sommes contents que tu sois avec nous aujourd'hui. Je vais te présenter. On se connaît, nous, depuis très longtemps. Tu es une grande amie, Ariane, qui est agrégée d'hébreu, qui enseigne la littérature hébraïque à la Sorbonne et qui également est la directrice du Talmud Torah de l'ULIF de Copernic. Donc quelqu'un qui a également publié un livre dont nous avons parlé dans notre émission sur Bialik et la biographie de ce grand poète national qui était Bialik. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un thème un peu plus particulier qui est la personnalité, le personnage de l'arabe dans la littérature israélienne, dans les textes sionistes. On le sait, une partie des sionistes, en tout cas des fondateurs du mouvement sioniste, ont pensé que la terre d'Israël était une terre sans peuple. Et comme le peuple d'Israël était un peuple sans terre, donc tout allait bien se passer dans le meilleur des mondes. Et en fait, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. On a découvert qu'il y avait sur cette terre d'Israël des gens qui y habitaient. Alors on ne va pas ici entrer dans les détails démographiques de savoir combien ils étaient à la fin du 19e siècle et quelle était la nature de leur, de leur identité, si c'était à l'époque, s'ils se considéraient comme des Arabes, comme des Palestiniens, comme des musulmans. C'est tout un débat qui a d'ailleurs été traité dans beaucoup de textes historiques sur cette période. Nous allons parler de, disons, de l'image, c'est-à-dire de la façon dont les premiers sionistes ont vu cette réalité qui était finalement une découverte pour eux. Ariane.
Oui, tout à fait. J'ai trouvé effectivement, en fait, ce qui m'a donné l'idée de ce thème, c'est justement d'avoir entendu votre magnifique émission sur Ahad Ha'am. Parce que Ahad Ha'am a justement été le premier à dénoncer, enfin, à mettre vraiment le doigt un peu là où ça fait mal, si je puis dire, c'est-à-dire à dire à ses lecteurs, attention, cette terre n'est pas justement une terre sans peuple. Et donc, ça m'a paru important de consacrer une émission dans cette histoire du sionisme à l'image que véhiculent les textes, d'abord hébraïques, puis israéliens, jusqu'à aujourd'hui, de cette présence arabe.
Voilà, ce que tu dis, c'est qu'au fond, il y avait un déni de cette réalité au départ.
Il y avait complètement un déni. Oui, il y avait complètement un déni. Et moi, je dirais qu'on ne peut pas leur en vouloir d'avoir nié cette réalité, parce que tous ceux qui écrivaient à l'époque n'avaient jamais mis les pieds en Palestine.
Oui.
Donc, oui, et puis surtout, d'un point de vue idéologique, ils voulaient croire que cette terre était une terre sans peuple. Ils voulaient y croire parce que c'était l'intérêt aussi, c'était leur intérêt de lancer dans cette aventure de l'implantation en Palestine le plus de jeunes possible. Ils avaient besoin de tout le monde. Et puis, c'était des Ashkénazes.
Oui.
Donc, les Arabes,
pas
ils ne connaissaient
défaut,
pas trop.
Ce n'est pas un défaut, rien.
Ça peut même être une très très grande qualité.
Oui.
La seule chose, c'est que bon, en Russie, où écrivaient tous ces théoriciens du sionisme, il y avait pas beaucoup d'arabes. Voilà. Donc ils ne savaient pas.
Mais dans les récits, par exemple, des grands voyageurs qui sont allés en Palestine, on parle aussi d'une terre qui est déserte, où il y a ici ou là quelques bédouins. Enfin, il y a cet orientalisme de la culture occidentale qui présente au fond l'arabe comme quelqu'un de, je dirais pas de sous-développé, en tout cas avec une certaine infériorité.
Ouais.
Voilà, il y a le rêve un peu de cet orientalisme, et puis il y a l'idée aussi que cette terre, elle est aride, désertique, pas très développée. Donc finalement, le rêve sioniste, c'était de faire de cette terre une terre fertile. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils ne voyaient peut-être pas de contradiction.
Certainement, effectivement, on trouve chez Lamartine, chez Chateaubriand, des peintures de cet Orient, alors vu de façon plus ou moins positive, plus ou moins négative, mais toujours avec une certaine condescendance d'occidentaux.
Oui.
Et effectivement, il y avait cette idée que l'Occident pouvait éventuellement apporter ses bienfaits à cet Orient qui était sous-développé, etc. Voilà. Alors maintenant, du point de vue des théoriciens du sionisme, quand Ahadam a lancé ce pavé dans la mare, si je puis dire, hein, et ouais. a dit attention, méfions-nous, on va peut-être citer.
À quel moment, il a dit ça?
Alors en fait, il a effectué deux voyages. Ses deux premiers voyages en Palestine, c'était 1891 et 93.
Donc avant Herzl.
Bien avant Herzl, bien sûr, ouais. bien avant Herzl. Et il est revenu un peu désespéré. Pour ne pas dire complètement désespéré. Il a trouvé un pays en ruine, on peut dire. Hein. Il a demandé, il est allé devant le Kotel, le mur, et il a écrit « Je ne sais pas si je dois pleurer davantage sur la ruine de ces pierres ou sur la ruine de notre peuple.
Oui. »
Donc c'est terrible. Et donc il est revenu de ses voyages en disant qu'il faut se garder de croire que la terre d'Israël est vide. Et je peux, si vous voulez, citer déjà une petite phrase de ce qu'il a écrit à Hadam.
Oui.
Il a écrit « Les Arabes, notamment ceux des villes, voient et comprennent le sens de nos actions et de nos aspirations en Palestine. Mais ils se taisent. Mais le jour où la présence de notre peuple prendra une dimension telle qu'elle empiète de peu ou de beaucoup sur les positions des autochtones, ce n'est pas de bon gré qu'ils nous céderont leur place. »
Oui.
Donc il était quand même assez lucide.
Et suite oui. à ces écrits, est-ce qu'il y a eu une répercussion sur les sionistes?
On les a mis sous le boisseau.
Pourquoi?
Eh bien parce que ça décourageait les candidats potentiels à l'Alia, tout simplement. Non seulement on les a mis sous le boisseau, mais ça a fait un scandale. Ces textes ont fait un scandale auprès des théoriciens du sionisme qui, eux, s'efforçaient de pousser les jeunes à partir. Donc, on n'en a plus reparlé. Ça a été... Bon, d'abord, le tableau, c'est vrai, était tellement désespérant qu'on n'a pas voulu lui accorder d'importance. Et puis, c'est vrai que c'était difficile de laisser circuler de tels articles tout en disant aux gens, mais aux jeunes surtout, parce que c'était surtout les jeunes qui partaient, allez-y, partez, vous allez faire fleurir le désert, c'est magnifique, la terre d'Israël n'attend que vous, etc. Il y avait là une telle contradiction qu'on les a mis sous le boisseau. Et on va parler peut-être dans un instant du moment où cette idée-là est vraiment sortie, en
quelque sorte. Oui, alors, lorsque Herzl, il a entendu ce message, on lui a dit, je me souviens d'un texte de Buber, qui justement va voir Herzl et lui montre la carte et lui explique qu'il y a justement une population qui est là, et Herzl dit, mais au contraire, ça va, lui est dans une vision tout à fait, disons, économique, et il dit, ça va être profitable également pour eux. Donc, quelque part, il y a une vision contradictoire dans le mouvement sioniste depuis le début. Ceux qui pensent qu'avec cette population, on va peut-être arriver à trouver un accord amiable, une forme de cohabitation, et ceux qui pensent que le conflit, d'une certaine façon, est inévitable parce que les Arabes n'accepteront jamais le sionisme, justement parce qu'ils en comprennent le sens et que le sens va à l'encontre de ce qu'est leur vie. À ce moment-là. Il y a quand même certains sionistes, comme par exemple Epstein, qui proposent de trouver, malgré tout, dès le début du mouvement sioniste, c'est-à-dire au moment de la seconde Aliya, vers 1906-1907, Yitzhak Epstein écrit un texte, justement, où il appelle, finalement, à faire un accord avec... une alliance avec les Arabes. Je crois que Stéphanie va nous lire ce petit texte.
Absolument. Il faut donc que nous fassions alliance avec les Arabes, que nous concluions avec eux un accord qui bénéficie aux deux parties et à l'humanité tout entière. Quant à nous, nous accepterons certainement une telle alliance, mais il faut encore obtenir l'accord de l'autre partie, que nous n'obtiendrons que peu à peu, par nos actions quotidiennes, qui doit être utile au pays tout entier, aux Arabes comme aux Juifs. C'est par la voie de cette action concrète que nos voisins comprendront progressivement le bénéfice qu'ils pourront tirer d'une association du peuple juif et du peuple arabe. Toute nouvelle usine, toute nouvelle agglomération que nous établirons, toute institution nouvelle doivent nous rapprocher de notre but, pourvu qu'ils bénéficient également aux habitants du pays. Obtenir cette charte, qu'il faut graver non sur le papier ou le parchemin, mais dans les cœurs et les esprits de tout un peuple, est une tâche grandiose et sans exemple dans l'histoire du progrès et de la libération de l'humanité, et qui doit faire renaître à la vie deux anti-peuples sémites, talentueux, qu'un grand avenir attend encore et qui sont complémentaires.
Voilà, c'est un texte qui s'appelle « La question disparue », je crois. Hein. C'est vraiment
c'est
un texte, je dirais, à mon avis, peut-être le premier texte fondateur qui pose cette véritable question de la cohabitation ou pas avec les Arabes. Et on a deux visions dans le sionisme, hein, comme je l'ai dit. Il y a, par exemple, par la suite, Jabotinsky qui va comprendre exactement comme Ahadam la situation, mais comme il a une conception, je dirais, plus herzlienne, c'est-à-dire plus étatique et politique, il dit, au fond, le conflit est inévitable, c'est un conflit objectif qui nous mènera forcément à une épreuve de force, et au terme de cette épreuve de force, si nous la gagnons, eh bien, les Arabes devront reconnaître notre existence, notre droit à la souveraineté, et à ce moment-là, nous pourrons être très généreux avec eux. Ils proposaient même qu'il y ait un vice-premier ministre arabe dans un gouvernement, qu'ils aient une forme d'autonomie, mais après l'épreuve de force.
C'est ça. En fait, Jabotinsky était d'une lucidité
Très
percutante.
Réaliste, politique, absolument.
Ce que n'était pas Herzl. Parce que, si je peux revenir un tout petit peu en arrière, Herzl, oui, dans son Judenstaat, l'État des Juifs, qu'il ne faut pas appeler non plus l'État juif, hein, c'est Ahadam qui soulignait la différence de taille entre l'État juif et l'État des Juifs, l'arabe brille par son absence. Hein. Le Judenstaat ne fait absolument aucune référence aux Arabes. Alors, en revanche, Herzl fait référence à la population arabe dans son roman Altneuland. Oui. Mais là, bon, on sent un petit peu que c'est l'utopie. Mais quand même, avec une certaine vision aussi condescendante, typiquement occidentale, de ce monde de l'Orient. Regardez juste une petite phrase de Altneuland. Il écrit « Les ruelles qu'emplit une odeur détestable sont insalubres, mal entretenues. Partout, c'est la misère diaprée de l'Orient. » Et la misère de l'Orient. Mais tout le monde ensemble, parce qu'il écrit « Les Turcs miséreux, les Arabes crasseux, les Juifs craintifs, tous vivent dans la paresse, dans la gueuserie, sans espoir. Un relent de putréfaction, une odeur de tombe prend à la gorge. » C'est terrible quand même cette vision de l'Orient qu'ils avaient. Et je pense souvent, en lisant ce texte, à la grand-mère d'Amos Oz, qui disait « L'Orient pue comme un œuf pourri ».
Oui, bien sûr.
Donc, c'est vrai que ces Occidentaux, qui avaient tendance quand même à se trouver un peu, s'estimer évidemment supérieurs à tout ce monde oriental.
Le judaïsme de Vienne, Mittel-Europa, qui regarde ça avec un complexe de supériorité, d'une certaine façon.
Ben, complètement. Et alors, sur Epstein, je voudrais juste ajouter que des amis et des proches de Bialik et d'Ahadam, notamment Oussichkine, ont ironisé sur cette, entre guillemets, découverte d'Epstein, parce que Epstein, justement, découvrait, entre guillemets encore, ce que Ahadam avait dit quelques années plus tôt. Puisque en 1907, quand il publie Hachela Nelama, la question disparue, il dit exactement la même chose que Ahadam en 1891 et 93. Mais on avait mis sous le boisseau ces articles.
Oui, enfin, il dit quand même à un moment, la meilleure de nos armes, c'est la rectitude de nos actions, notre bonne foi. Donc, quelque part, il faut, si nous respectons nos valeurs juives, nous pourrons trouver une façon de cohabiter avec les Arabes. Mais il faut aussi voir le contexte. Hein. Le contexte, c'est quand même les pogroms, au moment de la seconde alia. Et donc, on ne réfléchit pas trop à la question des gens qui sont là. On essaye de s'installer. Et je crois que le grand choc des olim de cette seconde alia, c'est justement cette rencontre avec les Arabes et l'hostilité des Arabes qu'ils ont à combattre. C'est à ce moment-là que se créent les premiers groupes d'autodéfense pour justement défendre les kibboutzim qui sont attaqués. Au départ, on pense que ce sont des attaques, disons, de type criminel. Mais en fait, derrière tout ça, il y a déjà autre chose, une véritable opposition à la présence juive en terre d'Israël. Alors, quelqu'un qui, à mon avis, représente cette première vision de l'arabe, c'est Moshe Similansky, dont tu parles longuement dans un article que tu nous as gentiment présenté, qui s'appelle « Minorité et marginalité, l'arabe dans la littérature hébraïque moderne ». Il y a ce fameux texte de Moshe Similansky qui s'appelle « Latifa », qui est un très beau texte, dont tu peux nous parler.
Oui, on peut parler un instant.
Oui.
Oui, alors effectivement, quand ils découvrent, enfin c'est ceux qui arrivent en Palestine qui découvrent cette réalité, qu'ils avaient ignorée ou qu'ils ne soupçonnaient pas tant qu'ils étaient dans leur pays natal. Et alors le choc culturel en quelque sorte est très très important. Mais Smilansky le voit de façon très très affectueuse ce problème culturel qui sépare les Juifs et les Arabes. Et cette nouvelle, je l'aime beaucoup cette nouvelle Latifa parce qu'elle est pleine de bonté, on peut dire, pleine
de tendresse,
oui, on peut dire. En fait, je la résume en quelques mots. Donc, il s'agit des premières colonies agricoles, donc en Palestine, et un juif possède une terre sur laquelle il fait travailler, ce qui était tout à fait banal à l'époque, il fait travailler des fellahs arabes.
Cette nouvelle se trouve dans un recueil qui s'appelle « Les enfants d'Arabie hein, ».
Oui, tout à fait. Alors, il fait travailler ces faits-là. Encore une fois, c'est tout à fait normal. Et puis, il y a une jeune fille, une jolie jeune fille qui s'appelle Latifa, qui est une adolescente, hein, qui doit avoir une quinzaine d'années. Et l'affection de Smilansky transparaît quand il dit qu'il n'a pas vu les yeux de Latifa, n'a jamais vu de beaux yeux de sa vie. Hein. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec cette jeune fille? Eh bien, cette jeune fille, elle tombe un peu amoureuse, il faut le dire, même complètement amoureuse du patron.
Moïse,
voilà, qui s'appelle Moshe. Et puis, s'engage entre eux une conversation sur les rapports entre l'homme et la femme dans les deux cultures. Et là, je vais vous citer également ce dialogue qui est un petit peu surréaliste, mais qui témoigne bien des différences marquées entre les deux cultures. La jeune fille, Latifa, demande à Moshe comment on traite les femmes chez eux, c'est-à-dire chez les Juifs. Et elle lui dit... « Chez vous, l'homme ne frappe pas ?» Alors, il est un peu interloqué quand même.
Oui, quand même, c'est une vraie question.
Oui. C'est une vraie question. Alors, il lui répond « Mais bien sûr que non. Comment pourrait-on frapper celle que l'on aime et celle qui vous aime ?» Réponse de Latifa. « Chez vous, la femme choisit celle qu'elle aime ?»
Celui qu'elle aime, pardon.
Quel lapsus. Et il lui répond « Bien sûr, bien sûr. » Et Latifa de conclure « Nous, on nous vend comme des ânes. »
On nous donne ou on nous vend,
je ne sais pas trop, mais en tout cas, voilà. Et alors, comme le père de Latifa, qui est un notable, hein, c'est un cher, il est assez important, il sent qu'il se passe quelque chose avec cette jeune fille qui va apporter de l'eau au fella, etc., il finit par lui interdire, peut-être aussi parce qu'elle grandit, tout simplement, il finit par lui interdire de sortir et d'aller dans les champs. Il la séquestre quasiment chez elle, quoi. Et puis, la jeune fille arrive quand même à apprendre à ce Moshe que son père veut la marier avec un cher. Et il y a à nouveau un petit dialogue un peu surréaliste où elle lui dit que s'il se convertissait à l'islam, il pourrait se marier. Hein. Et alors, Moshe répond... Enfin, il éclate de rire involontairement et dans ce rire, il y a quand même quelque chose. On sent quand même cette condescendance. Hein. Et il lui dit « Deviens juive et je t'épouserai ».
Magnifique.
Voilà. Donc, et ça se termine évidemment pas comme ça, il ne s'épouse pas évidemment, et elle quitte l'endroit, et puis il la revoit un jour, elle est presque une vieille femme, et elle est assise par terre vendant des poulets, et elle est toute ridée, etc. Mais enfin, c'est un des textes dans lesquels on a au moins le mérite d'avoir un dialogue, un vrai dialogue entre un juif et une arabe, et ça c'est très rare dans la littérature hébraïque ou israélienne.
Ouais.
Ariane, nous allons faire une petite pause musicale et nous revenons juste après ça.
נשמתי בורר בי מגלה בי עוד עולם שקורא לי ונרקע הולך דרך עד המלך חי Thank you. שומעת שם בתוך ליבי, שם בתוך ליבי
Alors cette cohabitation, c'est très beau au dialogue, il y a d'autres textes qui évoquent ce même type de situation dans cette littérature de cette époque-là.
Oui, il y en a beaucoup, sauf qu'il y a peu de dialogue, hein, comme je disais tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que le personnage de la rame, on lui donne assez rarement la parole dans cette littérature.
Souvent, il est d'ailleurs un personnage silencieux.
Oui, beaucoup. C'est ça, très
un
souvent
arabe
silencieux.
Un arabe qui est assis quelque part, ouais. Il y a une description qui est très physique. Mais il ne parle pas.
Oui, et très souvent, il n'a pas de nom également. On l'appelle juste l'arabe.
C'est bien, c'est pratique. C'est pratique.
Ça évite d'avoir à se souvenir des noms des protagonistes d'un roman.
Oui.
Ouais. Et alors là, je voulais peut-être qu'on lise un petit extrait de Binyamin Tammuz dans un concours de natation où on a deux jeunes enfants musulmans.
Voilà, tu peux nous dire deux mots sur Binyamin Tammuz.
Oui, bah, c'est un petit peu la même génération aussi que Smilanski. Et c'est donc ces gens qui se sont installés et puis qui ont constaté,
découvert la réalité.
Ouais. Voilà, et qui expriment une amitié, on peut dire, enfin qui espèrent la possibilité d'une compréhension et d'une amitié entre les deux peuples. Et dans ce concours de natation, par exemple, on voit effectivement là, en l'occurrence, le passage où les lire, c'est deux jeunes enfants qui parlent. Et déjà, là, on voit la différence entre l'immigrant juif qui est déjà laïcisé, qui ne croit plus en Dieu, etc., et une petite musulmane.
Ma grand-mère dit que toi et moi ferions un joli couple. Bêtise, dis-je en baissant la tête. Allez jouer, dit la vieille dame, nous ne voulons pas vous déranger. Je me levais pour suivre Naïda sur la véranda. Nous nous assîmes sur le bord du bassin. « Tu crois en Dieu ?» lui demandai-je. « Moi, pas du tout. »« Moi, oui. Il y a dans le verger un endroit où je vais prier. Si nous devenons amis, je t'y emmènerai pour te montrer que Dieu existe. »« Es-tu jeune pendant le ramadan ?»« Moi, je mange même à Kippour. »« Je ne jeûne pas parce que je suis petite. »« Et toi, tu respectes le Shabbat ?»« Ça dépend, dis-je. »« Si je n'ai rien à faire, je me repose. »« Mais pas parce que Dieu existe, comme ça, pour rien. » « Mais moi, j'aime Dieu, » dit Naïda. « Alors sûrement, on ne pourra pas se marier tant que tu ne cesseras pas de croire. »
Voilà, donc ça, je trouve que c'est vraiment tellement, tellement vrai, tellement...
Oui, c'est un peu naïf. Dans cette cohabitation, il y a finalement toujours ces deux points de vue. Il y a des gens qui comme par exemple Yosef Haïm Brenner, grand écrivain inspiré de Nietzsche et d'autres qui avaient une vision un peu nihiliste et qui, découvrant cette hostilité, était très pessimiste. Et finalement ne croyait pas qu'il y aurait la possibilité d'une cohabitation avec les Arabes. Et d'ailleurs, curieusement, paradoxalement, il est d'ailleurs mort en 1921 lors des émeutes à Yafo. Donc, quelque part, il avait une vision assez réelle. Et puis, il y avait d'autres tentatives de cohabitation beaucoup plus organisées. Boubert, par exemple. Alors, je voudrais lire un petit texte de Boubert qui est assez significatif, qui date d'un petit peu plus tard, il est de 1929. Il faut savoir que dès 1925, Boubert avait été à l'initiative, avec d'autres, de ce qu'on appelait le Brit Shalom, c'est-à-dire une alliance pour la paix, pour justement essayer de trouver un accord de cohabitation, de coexistence avec les Arabes. Voilà ce que dit Boubert. « Nous ne nous sommes pas établis en Palestine avec les Arabes, mais bien à leur côté. » Cette forme de cohabitation à côté l'un de l'autre, où deux peuples sont établis sur un même territoire, si elle ne devient pas une cohabitation en commun, deviendra obligatoirement une cohabitation l'un contre l'autre. C'est ce qui risque d'advenir ici également. Il n'y aura pas alors moyen de revenir à côté l'un de l'autre. Toutefois, et malgré les énormes obstacles qui s'accumulent sur notre route, cela peut encore mener à la cohabitation en commun. Je ne sais pas combien de temps cette option nous restera ouverte, mais à mon avis, où nous y arriverons, ou nous n'atteindrons jamais ce havre spirituel auquel nous aspirons. Ça, c'est de la prophétie, pratiquement.
Ben oui, c'est vraiment prophétique, et c'est terrible, parce que Buber voulait y croire, hein, vraiment. Il voulait y croire, et cette association Brit Shalom avait a même publié des statuts, enfin, c'était très, très, oui. Pignon sur rue, très officiel et tout. Et vraiment, c'était, comme il le montre dans son ouvrage « Une terre et deux peuples », vraiment une volonté de cohabitation pacifique, etc. Et il insistait beaucoup aussi, Buber, sur le manque de compréhension mutuelle. Et je pense que c'est la non-compréhension l'un de l'autre qui a mené à ce non-dialogue, justement.
Cette alliance pour la paix a duré, enfin, en tant qu'organisation effective, presque jusqu'en 1936. Et en 1936, au moment de ce qu'on a appelé la Grande Révolte arabe, en fait, cette alliance a pratiquement éclaté parce qu'il y avait, plus que quelques intellectuels juifs et il n'y avait plus du tout de relations avec la population arabe. Et donc, voilà, ça...
Oui, en fait, les difficultés sur le terrain ont commencé à être tellement...
Voilà, cela dit, après la création de l'État d'Israël, d'autres forces ont créé des organisations, justement, pour faciliter la coexistence entre les deux peuples. Voilà, alors après, je pense qu'on arrive sur une autre période un peu plus compliquée, qui est la période de la guerre d'indépendance. Et notamment, bien évidemment, dans la guerre d'indépendance, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de victimes, il y a beaucoup de combats qui sont assez sanglants, et donc qui sont décrits dans les récits de la guerre d'indépendance, où, évidemment, des écrivains qui écrivent en Israël en toute liberté, du côté arabe, je ne suis pas sûr qu'il y a eu toute cette littérature de façon aussi libérée, je dirais. Mais dans certains textes sur la guerre d'indépendance, il y a quand même déjà l'apparition d'une certaine image de l'arabe et de ses relations avec Israël.
Oui, je dirais peut-être davantage de ses relations avec Israël et des relations des Juifs vis-à-vis des Arabes que l'inverse. Effectivement, là, on passe un cap. 48, c'est clairement un cap, et dans la littérature israélienne, on va se rendre compte que cette image de l'arabe va se modifier, et que pour les écrivains qui sont, il faut quand même le dire, assez souvent de gauche.
Oui. Hein, tu m'étonnes. C'est rare quand même qu'il y ait des écrivains de gauche.
Mais sans aucun jugement de valeur. Hein. L'arabe en fait va commencer à cristalliser la mauvaise conscience d'Israël.
Une forme de culpabilité.
Une forme de culpabilité, absolument, oui. Et là, on trouve pas mal d'auteurs hein, que sûrement nos auditeurs connaissent. On trouve Alef Bat Yehoshua, on trouve Amos Oz, on trouve David Grossman, on trouve Samer Hizar,
oui,
on trouve Kaniouk.
Oui, Kaniouk et Samer Hizar sont certainement les plus violents de ce point de vue-là.
Oui. Effectivement, je crois qu'on va lire un passage de Samer Hizar qui a écrit juste au lendemain de la guerre d'indépendance des textes très durs. Oui. Dans lesquels, par exemple, dans Le Prisonnier, il met en scène des soldats israéliens qui ont fait prisonnier un arabe qui, pourtant, ils le savent parfaitement, n'avait rien fait. Et donc, c'est l'injustice de ces arrestations qui lui semble assez insoutenable. Et donc, dans toute cette nouvelle, qui est très dure, effectivement, à lire, hein, d'un point de vue moral, on voit un des soldats qui refuse en lui-même, mais qui pourtant n'agit pas. Mais qui refuse le principe même de cette arrestation complètement arbitraire et qui se dit « mais je n'aurai qu'un mot à dire pour qu'on arrête cette jeep dans laquelle on a fait prisonnier cet arabe, qu'on le libère et qu'il rentre dans sa famille et qu'on sorte de ce problème moral. »
Je vais en lire un passage d'ailleurs. « Ici, près de la rivière, nous allons descendre avec le berger. Nous lui retirerons son bandeau, indiquerons la direction des collines et crierons « retourne chez toi, marche tout droit ». Évite cette hauteur-là, c'est un poste occupé par des Juifs. Garde-toi de retomber entre nos mains. Alors l'homme s'élancera sans demander son reste et rentrera dans son foyer. Quel soulagement! L'attente angoissée d'une épouse, la détresse d'une mère, les conjectures, l'incertitude, tout sera effacé. Pourquoi ne passes-tu pas à l'acte? Qui t'en empêche? C'est pourtant simple. Un peu de générosité suffit. Enjoins au chauffeur de stationner un moment. Cette fois, ne te cache pas derrière de beaux discours. Cette fois, inutile de blâmer autrui. Il ne tient qu'à toi de sauver un innocent.
Terrible.
Oui, c'est terrible. Et puis on sait, enfin, Sam Erizar, qui était le neveu de Smilanski, qu'on a évoqué tout à l'heure. Sam Erizar a écrit aussi un grand, grand livre qui s'appelle Hirbet Rize, qui est aussi un texte très dur, où il y a une critique sur, évidemment, des exactions qui se sont passées pendant la guerre. Bon, évidemment que dans toute guerre, il y a des exactions, il y a des faits de guerre qui sont parfois violents. Et cette description, donc Hirbet Rize, c'est vraiment à la fois un très beau livre et en même temps une forme de critique de la façon dont l'armée israélienne s'est comportée pendant la guerre d'indépendance. Alors tout peut s'expliquer, évidemment il y a le contexte, et on sait que de l'autre côté, il y a eu bien pire. Donc, mais c'est vrai qu'à partir de cette guerre d'indépendance, l'image de l'arabe, elle est à la fois cristallisée dans l'ennemi et aussi dans, ce que tu disais, la mauvaise conscience. Cela dit, il y a une question que je voulais te poser, Ariane, mais que je jamais... Peut-être que toi, tu as la réponse. C'est pourquoi tous ces écrivains de gauche qui, finalement, ont cette mauvaise conscience et qui veulent coexister avec les Arabes, ben, aucun d'eux n'a fait l'effort d'apprendre l'arabe, en général.
C'est vrai, et que le problème de la langue, c'est tout à fait juste ce que tu soulignes.
Parce que si on veut vraiment, mais oui, si on veut vraiment connaître l'autre,
mais le problème de la non-connaissance de l'arabe a aussi été souligné par ces mêmes écrivains, notamment David Grossman. David Grossman dit « Nous n'avons pas fait l'effort, et c'est aussi une autocritique, hein, nous n'avons pas fait l'effort d'apprendre l'arabe suffisamment pour pouvoir vraiment dialoguer. » Et quand Grossman va aller faire ses reportages dans les territoires occupés...
Le vent jaune, c'est ça ?
Oui, par exemple, dans le vent jaune, oui, où les exilés de la Terre promise, il va s'adresser à des familles dans des villages, comme ça, pour écrire ce livre qui est un livre de reportage. Et là, il constatera qu'effectivement, le problème de la langue, c'est une barrière, et que malheureusement, les Israéliens n'ont peut-être pas assez fait l'effort de comprendre, d'apprendre l'arabe.
Alors je crois qu'il y a un grand livre dont il faut vraiment parler, parce que dans cette période, disons de 48 à 67, encore une fois 67 aussi, ça va être un tournant dans cette vision de l'arabe et dans les relations avec ce qu'on peut appeler, à partir de 67, on va parler de palestiniens plus que d'arabes d'ailleurs. C'est un livre qui est enseigné dans toutes les écoles, il faut savoir aussi ça c'est quand même la beauté, je dirais, de la démocratie israélienne et du système éducatif, c'est que le fameux texte de Aleph Beth Yoshua, qui s'appelle L'Amant, qui est une histoire d'amour entre un arabe et une juive, est enseigné dans toutes les écoles du système scolaire israélien. Donc ça montre quand même qu'il y a une ouverture. Alors je crois que ce texte-là, pour moi, c'est probablement... je dirais le texte presque fondateur de ce qu'on peut appeler la cristallisation de l'image d'un arabe dans la littérature israélienne moderne.
Oui, ben je suis effectivement très heureuse que ce genre de livre soit au programme dans les lycées israéliens, mais ça me paraît la moindre des choses, d'autant plus que Aleph Beth Yoshua, c'est quand même un des grands de cette génération. Et alors, si on veut parler un petit peu de ce livre, L'Amant, on sent que Aleph Beth Yoshua appellerait de ses voeux cette cohabitation pacifique. Il voudrait penser, je ne sais pas s'il le pense vraiment, mais il voudrait penser que des liens d'amour, d'affection réciproque puisse...
Voilà. Juste une précision, Aleph Beth Yoshua est originaire de Haïfa. Haïfa est une ville où il y a une cohabitation, une coexistence réelle entre juifs et arabes depuis toujours. Et donc, même jusqu'aujourd'hui, il y a des quartiers mixtes, des quartiers dans Haïfa, où juifs et arabes habitent dans les mêmes maisons, dans les mêmes rues. Donc, Haïfa, c'est quand même assez particulier. Il faut voir que ça, c'est dans la tête d'Aleph Beth Yoshua quand il écrit ça. Ce n'est pas un écrivain de Tel Aviv ou de Jérusalem.
Oui, mais néanmoins, la fin de l'histoire nous montre que la constatation, c'est que, ça n'est pas possible. Alors, en fait, ce roman, entre autres, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce roman, il est très riche, on a une histoire d'amour, mais larvée, entre un jeune arabe qui travaille au garage du père de celle qu'il aime, et cette petite jeune fille, Dafi, ils sont adolescents tous les deux, et lui, il tombe fou amoureux d'elle. À un moment, ce qui est assez amusant, c'est que... il y a beaucoup de choses amusantes, en fait, dans cette histoire. Il a appris l'hébreu, il le parle parfaitement, au point de déclamer les vers de Bialik, le poète national, pour gagner le cœur de sa bien-aimée.
Il va lui déclamer du Bialik.
Exactement. Il lui déclame du Bialik parce que ça veut dire que j'ai fait des progrès, ça y est, je suis montée dans l'échelle sociale par le biais de la culture. Je connais Bialik. Donc, pour ce petit arabe, connaître Bialik, c'est se faire bien voir aux yeux de la famille, de son patron, des juifs, etc.
Avec toi, ça aurait marché, mais pas avec Daffy. Avec Daffy, ça ne marche pas.
Ah ben, ça marche un petit peu quand même, hein, parce que leur relation se noue. Leur relation se noue. Et puis, alors, à un moment, dans un passage, je ne sais pas si vous voulez lire un petit peu ce passage, il a la clé, il vole la clé de l'appartement de sa bien-aimée et il la touche comme ça dans sa poche. Alors, c'est un texte qui est un peu érotique parce qu'il y a le symbole de cette clé là qui va lui permettre
très
d'ouvrir.
Métaphorique,
très métaphorique. Voilà, vous voulez lire un petit peu
ça. La clé de son appartement ne me quittait jamais. Le soir, je la glissais sous mon oreiller. J'avais l'impression de porter une arme sans permis. Je le voyais entouré de ses clients, je me souvenais de sa maison aux pièces obscures, de la grande fenêtre dont l'on voyait la mer, de la cuisine impeccable et des tablettes de chocolat dans le réfrigérateur. Je voyais la porte s'ouvrir, la belle jeune fille entrer, jeter son cartable et me sourire. Je lui souris à mon tour en pensée, tout en caressant la clé dans la poche de ma chemise. Je peux retourner là-bas quand je veux, ouvrir la porte en silence, me promener dans la maison, manger du chocolat, emporter un petit souvenir, de l'argent peut-être.
Alors, de l'argent peut-être, ça prouve aussi déjà quand même qu'il y a un petit a priori, un petit préjugé, l'arabe est peut-être un voleur. Voilà. Bon. Mais enfin, c'est pas sur ça que je voudrais insister, c'est vraiment sur le rêve de ce jeune homme, quoi. Il s'y voit.
Mais quelque part, ce jeune homme, par cet amour, il veut s'israéliser.
Absolument.
D'une certaine façon. C'est l'arabe qui veut adopter finalement le mode de vie israélien.
Oui.
Et aujourd'hui, c'est un texte qui serait plus écrit de cette façon-là. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les Palestiniens n'ont plus ce rêve de vouloir être des Israéliens comme tout le monde.
Ouais, mais beaucoup de choses se sont passées, beaucoup d'incompréhensions réciproques, beaucoup de malentendus, beaucoup d'échecs successifs, des négociations, etc. Donc, ont créé une situation qui est malheureusement encore beaucoup plus dure qu'elle ne l'a été à l'époque. Mais je voudrais quand même citer encore une autre phrase que dit ce jeune petit arabe. Il parle des relations judéo-arabes et il dit « Non, les Israéliens ne nous haïssent pas. Le penser serait une grossière erreur. Nous sommes au-delà de la haine. Nous sommes des ombres.
Oui,
pour eux, nous sommes des ombres.
Oui.
Donc, voilà, c'est pas de la haine, mais c'est que voilà, nous, les Arabes, c'est un épiphénomène, c'est quantité négligeable. Les Israéliens vivent leur vie d'Israéliens. Les Arabes sont là à côté, mais ils passent comme des ombres. Et puis finalement, l'histoire se termine pas très bien, quoi qu'il y a toujours une petite lueur d'espoir. Mais bon, les deux adolescents finissent par coucher ensemble. Ce qui devait arriver arrive, mais si on peut le dire sur ces ondes. Mais par contre, la fin, c'est au contraire que cette histoire d'amour est complètement impossible et que le père de Daffy n'a qu'une idée en tête à partir de ce moment-là, c'est éloigner
l'un de l'autre.
Les éloigner l'un de l'autre. Ça n'est pas possible. Ils sont étrangers l'un à l'autre. Il faut les séparer.
C'est un peu.
Je vais lire encore un petit extrait de cette fin. Mais que faire maintenant? Où aller? Un vent chaud souffle sur la ville. La lumière paraît grise malgré la clarté du ciel. Le moteur tourne. Naïm à mes côtés fume en silence. À quoi pense-t-il? En fait, c'est un étranger pour moi. Il appartient à un autre monde. Dire que je pensais qu'il s'était attaché à moi. Non, je ne lui en veux pas. Et puis, à quoi serviraient des explications? Je dois l'éloigner d'ici, c'est tout. Mais où l'emmener? Il y a combien de temps que Daffy et toi? Aujourd'hui seulement. Nous parlons sans nous regarder. Tu as couché avec elle? Il ne sait pas. Il pense que oui. Mais il n'en est pas sûr. C'est la première fois que cela lui arrive. Il bégaye, sa voix tremble. Un moment, je crois qu'il va éclater en sanglots. Mais il ne pleure pas. Je me souviens du jour où il pleurait dans la salle de bain quand je l'ai ramené à la maison. Depuis, il est devenu un petit amant.
Je crois qu'on va faire une pause musicale pour se détendre un peu, là.
נשמתי משמיע גיגי יש בי אהבה בלי די יש בי אהבה בלי די ימים כלילות רק רוצה לא להיות במתנה, מתנה מותנית באהבה, נשמה חשוכה. תן לי אותך ולא רק אם, תן אהבה בלי תנאים, בלי תנאים. So far, you see the sky, you cry, you don't know why. It's joy, it's happiness, the rainbow makes you feel high. So far, you see the sky. אולי אלבש כלימה זוהרת, תגדיל עקביי, ארחיב מימדיי, גם זה לא ישמיע אותי ודאי. ואם אקפוץ לגובה, מעבר לאופק, אולי גם זה לא יזיז להם את הדופק, מה עוד אעשה? כדי לעלות הדרך שלי, לעבוד, לעבוד, לאבד, לאיבוד, כל שביקשתי לתת הלך לאיבוד. האם אתרסק ותפזר לאנחות? תוקח ביקום ממשיך להיות בדרך ארוכה מתישה וקסומה ולאן אינני מקבלת אותה אולי חשבתי קצת יותר מדי עליי לעשות את דרכי שכחתי כמעט אני סתם סתם מהלכת על פני אדמה לא חזקה בעוצמה מתבזבזת על עוד קפה בבוקר או ללכת לסרט הבריחה מהווה עצמית גורלית כל שאבקש לקבל יתפזר באוויר המביא לא מביא לנשמה זה So far You see the sky You cry You don't know why It's joy It's happiness The rainbow makes you feel high So far You see the sky The rainbow makes you feel high, high so far. You see the sky, you cry, you don't know why. It's joy, it's happiness, the rainbow makes you feel high so far. You see the sky. נשימה את נשמתי, משמיעה גיגי יש בי אהבה בלי די יש בי אהבה בלי די ימים כלילות רק רוצה להיות והמתנה, המתנה מותנית באהבה נשמה חשוכה תן לי אותך ולא רק אם תן אהבה בלי תנים, בלי תנאים
סטפני, donc tu nous as fait écouter une belle musique cette fois-ci. Ariane, nous allons parler de quelqu'un dont on a évoqué au début et qui est un ancien combattant d'ailleurs de la guerre de 48 qui a écrit à la fin de sa vie un livre assez dur justement sur cette guerre de 48 qui est aussi un livre de démystification de beaucoup de mythes de cette guerre de 48 et qui a écrit un livre assez polémique dont on a beaucoup parlé quand il est sorti en Israël qui s'appelle en hébreu Aravitov, c'est-à-dire un bon arabe, ce qui est... une expression, comme on dit en hébreu, Yuditov, c'est-à-dire c'est un bon juif, quoi, c'est un bonhomme. Il y a un côté un petit peu bonhomme, mais évidemment le livre est assez terrible, et fait une description de la vie d'un couple mixte.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un jeune homme, en fait c'est un couple plus que mixte, parce que c'est le jeune homme lui-même qui est marié à une juive, qui est issu d'un couple mixte. Ouais. Et c'est ce jeune homme-là qui est le Aravitov de l'histoire, c'est-à-dire le bon arabe de l'histoire. Et c'est un jeune homme qui va lutter en quelque sorte, comme Jacob avec l'ange, il va lutter en permanence. Sa vie entière ne va être une lutte entre ses deux identités. Hein, il est juif par sa mère et musulman arabe par son père. Lui, il ne rêve que d'une chose, c'est d'arriver à concilier ces deux identités, mais il vit dans un pays où malheureusement c'est complètement impossible. Alors c'est une lutte, c'est un traumatisme, vraiment un traumatisme qu'il vit. Il se sent souvent étranger à lui-même, il se sent étranger à sa femme, il se sent étranger à son pays qui est Israël. Et donc c'est presque une confession justement, c'est pour ça que le titre français c'est « Confession d'un bon arabe ». Ouais. Presque une confession, un monologue dans lequel il part en quête de sa véritable identité. Il ne comprend pas qu'on lui demande en quelque sorte de choisir entre ces deux identités. Pour lui, il est les deux et il devrait pouvoir être les deux sans que ça pose le moindre problème.
Je vais vous en lire un petit extrait absolument. Dès mon jeune âge, néanmoins, et pour mon malheur, le côté sombre de ce brassage était déjà apparent pour moi, produit et victime de deux histoires qui étaient en conflit, ici et maintenant. Dans un pays où mon peuple était toujours en guerre contre mon peuple contre mon pays, mon État contre mon peuple.
Oui, c'est très clair.
C'est très clair.
Alors, je crois qu'il y a, dans ces textes, évidemment, Yoram Kanouk, c'est quelqu'un qui aussi avait une façon de dire les choses de façon très crue et très directe, mais ça montre bien ce que tu dis, cette situation de gens qui sont un peu déchirés entre deux identités, et aujourd'hui, je crois qu'ils sont même parfois déchirés entre trois identités ou quatre identités, avec la montée de l'islam radical. Mm-hmm. Donc on voit aujourd'hui dans la société israélienne, justement, et notamment parmi les Arabes chrétiens aussi, il y a énormément de déchirements identitaires. Il y a quelqu'un qui est allé encore plus loin, je dirais, d'une certaine façon, mais peut-être dans l'engagement politique, et qui est très connu à la fois en France et en Israël. Très connu d'abord parce que c'est un grand écrivain, mais aussi parce que c'est les livres qui l'ont fait connaître en tant qu'écrivain, alors que lui était journaliste au départ, ce sont justement des livres sur la situation des Palestiniens après 1967. Et il faut dire que la guerre des six jours, 1967, là aussi c'est un tournant, c'est le début de, disons, l'administration de nouveaux territoires où il y a des Palestiniens. Il y a des Arabes israéliens aussi. Il y a de plus en plus de liens entre ces deux populations qui parfois sont liés par des liens de famille. Et puis, il y a ce que Grossman appelle, les méfaits de l'occupation et tous les effets pervers que cette occupation va avoir. Et il va donc écrire, à part ce livre de reportage qui s'appelle « Le vent jaune », un livre qui est peut-être... peut-être le tournant, qui s'appelle Le sourire de l'agneau, qui a d'ailleurs, il y a eu un film d'ailleurs qui a été fait à partir de ce livre.
Oui, tout à fait. Et moi, je considère vraiment ce livre comme un chef-d'œuvre. Vraiment, je trouve que il est allé jusqu'au fond de l'introspection. Peut-être que tu ne seras pas d'accord, Michael, je ne sais pas.
Non.
Mais en tout cas, je trouve
qu'il y a. Ça peut arriver. Ça,
d'abord, il y a une écriture qui est brillante, et puis une introspection, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on creuse véritablement dans l'âme.
Il n'y a pas. Est-ce que tu ne trouves pas Ce serait moi, c'est ma critique sur ce livre, c'est qu'un livre un peu d'auto-flagellation, d'une certaine façon.
Un petit peu, ça je peux pas dire le contraire, mais je pense que ce livre a fait date parce qu'il fallait écrire peut-être ce genre de choses aussi. Alors c'est très dur, on va lire un passage tout à l'heure qui effectivement montre à quel point c'est dur. La guerre des six jours, comme tu le disais, a vraiment marqué un tournant aussi après 48 dans cette littérature, parce que ça a changé la donne tout simplement dans la situation dans la région. Et là donc on a affaire à un héros qui est en fait un anti-héros qu'on appelle l'agneau en fait, hein, Rioragdi, le sourire de l'agneau. C'est lui, c'est ce jeune Ouri qui est un soldat et qui est un soldat israélien qui sert dans les territoires et qui va se lier d'amitié avec un arabe un peu marginal,
qui vit dans une grotte,
voilà. Mais en réalité, il n'est pas fou du tout, ce personnage. Il s'appelle Rilmi, il n'est pas fou du tout. Certes, il vit en ermite, mais il est considéré comme traître par les siens. Parce que, justement, il sympathise avec ce soldat
parle,
israélien.
Parce qu'il parle avec l'occupant.
Voilà, il parle avec l'occupant, exactement. Et on a l'impression que ces deux-là se comprennent. Ouri et Rilmi se comprennent. Et Rilmi montre bien qu'il ne comprend pas pourquoi ce conflit se durcit. Il ne comprend pas non plus pourquoi son fils adoptif à lui s'est laissé embrigader dans un groupe de terroristes. Enfin, il est un peu perdu, ce Rilmi. Mais il a à côté de ça des remarques qui sont tout à fait pertinentes.
Enfin, les deux sont perdus.
Les deux sont un peu perdus.
Il est perdu, sa femme le trompe.
Alors, il y a des histoires de couple terribles aussi qui se mélangent à ça. Et puis, il est sous la coupe d'un chef. Qui s'appelle Katzman et qui, pour le coup, lui, représente l'officier très, très dur, très sectaire, très anti-palestinien, on peut le dire, alors que Ouri rêve. Mais malheureusement, l'histoire a montré qu'effectivement, Ouri rêvait de ce dialogue, cette amitié.
S'il y a un reproche encore une fois, ce n'est pas pour enlever les qualités d'écrivain de David Grossman, mais il y a peut-être ce côté un peu caricatural, peut-être trop stéréotypé des personnages, non ?
Écoute, moi j'ai vraiment envie de croire que Ouri existe. Oui. Alors, est-ce que c'est stéréotypé?
Moi, j'ai envie de croire que Rilmi existe.
Oui, bah, que Rilmi existe aussi, je suis d'accord avec toi. Mais je trouve que... Non, je ne sais pas si c'est peut-être un petit peu caricatural, mais on a envie d'y croire. Parce que, ou alors sinon, on baisse les bras et on reste désespéré. Moi, j'ai envie de croire que ce dialogue est encore possible et que Rilmi et Uri peuvent encore se comprendre et s'apprécier mutuellement. Voilà, c'est...
Est-ce que c'est un, il y a un constat d'une haine qui est peut-être infranchissable?
Moi, je dirais qu'il y a un constat du pourrissement de la situation. Et ce pourrissement de la situation, dans ce roman-là, en l'occurrence, il est traduit par l'image d'un âne qui a été la victime collatérale, si je puis dire, de tirs échangés entre les Israéliens et les Palestiniens. Il y a un âne qui est mort et on a laissé le cadavre de la charogne de cet âne pourrir au milieu du village. Alors, il y a une odeur pestilentielle, c'est effrayant. Et vraiment, ces passages concernant cette carcasse d'âne qui pourrit au milieu du village, c'est vraiment là le symbole, la métaphore d'une situation qui s'enlise, et du pourrissement de cette situation dont on n'arrive pas à se sortir, ni les uns ni les autres.
Oui.
Je vais lire un petit extrait justement du sourire de l'agneau. C'est comme ça que, à un des pires moments de désespoir, à un moment où je donnais raison avec rage à toutes les parties, j'ai décidé que j'aille me faire foutre, que désormais je n'écouterai plus que la voix distincte de mon hormone cervicale, qui me dit qu'un grand préjudice a été porté ici aux gens. Et je m'en fiche que tout ait commencé par leur agressivité, par leur haine continuelle. Et je m'en fiche que nous soyons une occupation éclairée et qu'il n'y ait quasiment pas de traces visibles de violence. Tous ces arguments ont assez de parents des deux côtés. C'est pourquoi, dès maintenant, j'adhère uniquement à cette voix calme et distincte. Et j'évolue avec elle dans une cécité totale à l'égard des autres choses, parce qu'il faut être parfois un peu aveugle pour faire quelque chose. Avner est réputé pour ce genre d'impassibilité obtuse. Et dès l'instant où j'ai décidé d'agir comme ça, les mots sont venus. Et j'ai su exactement ce que je voulais. Et je me suis reconnue. Là-bas, à Djouni, j'ai compris pour la première fois que le mouvement de l'injustice ressemble à peu près à celui d'une rue. D'une roue, pardon. On ne peut le comprendre que par les plaies d'usure de la roue. C'est comme une partie d'attrape-mensonge. Si tu portes préjudice à quelqu'un, tu es déjà piégé dans le mouvement de la roue. Comme si tu avais vendu ainsi une part de toi-même à l'injustice. Et dès maintenant, partout où tu iras, tu en seras le messager.
Voilà, c'est ça, c'est l'injustice, en fait, qu'il souligne ici de la présence israélienne dans ces territoires. Ça, on le sait, Grossman se bat pour... C'est pas, il ne faut pas le cacher, hein, il se bat, il s'est toujours battu pour que les Israéliens quittent la Cisjordanie.
Oui, alors il y a quelqu'un qui est, je dirais, le partenaire politique dans tous ces combats pour la paix. C'est Amos Oz, grand écrivain israélien, qui a moins écrit d'ailleurs sur les Arabes. Il n'y a pas beaucoup de personnages arabes dans les textes d'Amos Oz, mais malgré tout... dans une série de nouvelles, un recueil de nouvelles qui a été traduit en français sous le titre « Scène de vie villageoise », il y a une nouvelle dans laquelle il parle de ce personnage de l'arabe.
Oui, alors il faut voir comment il en parle. Là, c'est d'une façon complètement désabusée. Hein. Oui. Il y a un dialogue entre un père et sa fille. Alors ce père, c'est un ancien membre de la Knesset. Et voilà, il est complètement désabusé. On a l'impression que plus rien pour lui n'a vraiment d'importance. Et il traite cette... Alors il y a un jeune arabe donc, qui est venu, qui est un étudiant. Attention, c'est important ça, on va voir pourquoi. Qui est venu travailler chez eux. Il fait une année sabbatique en quelque sorte et il voulait un logement et il est venu travailler chez eux. Alors il a un nom cet arabe. Hein. Et pourtant, le père ne l'appelle jamais par son nom parce que d'abord il est très méfiant. Hein, on va lire un passage peut-être dans lequel il dit mais c'était un étudiant, mais pourquoi, si c'est un étudiant, qu'est-ce qu'il fait là? Non, c'est plutôt un pseudo-étudiant. Et puis, il n'a pas de nom, son statut lui paraît louche, il ne sait pas très bien qui c'est cet arabe. Voilà. Alors, l'idée d'Amos Oz ici, c'est que dans l'imaginaire et dans les fantasmes de beaucoup d'Israéliens, ben, l'arabe n'a pas de nom, l'arabe, on ne sait pas qui c'est, il s'est toujours louche, c'est toujours peut-être un voleur potentiel, etc. Et là, il se bat un petit peu gentiment, hein, mais avec verbalement, et avec sa fille qui insiste sur le fait que cet arabe, c'est un être humain comme les autres, qu'il a un nom et qu'il mérite la considération aussi.
L'étudiant ne plaisait pas à l'ex-député Pessar Kedem. Il ne nous aime pas, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Mais il le cache sous un masque hypocrite, commenta-t-il. N'importe comment, il nous déteste tous. Et pourquoi en serait-il autrement? Je ferai la même chose à leur place. En fait, je n'ai pas besoin d'être à leur place pour nous détester. Crois-moi, Rachel, si l'on prend un peu de recul, il est évident que nous méritons la haine et le mépris, peut-être même de la compassion. Sauf que les Arabes ne peuvent pas avoir pitié de nous, vu qu'ils excitent celle du monde entier. Le diable seul sait pourquoi ce pseudo-étudiant est venu chez nous. Est-ce vraiment un étudiant, d'ailleurs? As-tu vérifié ses diplômes avant de l'adopter? As-tu lu ses travaux? L'as-tu interrogé à l'oral et à l'écrit?
Voilà, c'est terrible, hein?
Oui, c'est assez désabusé. Alors avant de conclure un peu cette émission, la littérature israélienne a continué à écrire. Je crois que ces derniers temps, il y a eu des textes assez intéressants, moins classiques. Notamment, il y a cet écrivain arabe qui écrit en hébreu et qui est très connu en Israël, qui s'appelle Saïb Kachoua, qui est également traduit en français, avec ce texte qui s'appelle « Les Arabes dansent aussi », qui montre justement cette vie des Arabes un peu israélisée, et qui, au fond, sont capables d'avoir exactement les mêmes vies que les Israéliens, mais qui se trouvent face à des préjugés, et de deux côtés d'ailleurs. Ils sont rejetés par leur famille, mais ils ne sont pas vraiment acceptés par les Israéliens
absolument.
Non plus. Traités avec beaucoup d'humour. Saïb Kachoua, contrairement à d'autres, traite ça avec beaucoup d'humour, très très drôle. Il y a d'ailleurs une série qu'il a écrite pour la télévision israélienne qui s'appelle Avoda Aravit, où on montre justement l'intégration, si je peux dire, d'un arabe dans un immeuble avec des voisins israéliens. Et bon, c'est assez curieux parce que voilà, il plaisante un peu sur tout le monde, notamment sur ceux de gauche qui à la fois sont pour la paix mais ne veulent surtout pas l'inviter chez eux. Tous ces préjugés-là. Et puis, il y a une polémique récente d'un livre qui s'appelle Gader Haya, c'est-à-dire la barrière vivante, on pourrait traduire ça, de Yael Hedaya. Je pense que ce texte va être traduit bientôt en français, qui montre justement une histoire d'amour entre une Israélienne et un Arabe, avec tous les préjugés qu'il y a derrière, et qui est à la fois politique, mais qui est surtout une histoire d'amour. Donc les aspects politiques, maintenant, sont traités de façon peut-être moins directe. Voilà, si tu devais un peu faire le bilan de cette image de l'arabe dans la littérature israélienne depuis 100 ans à peu près, tu dirais quoi ?
Bien, je dirais que c'est des relations très complexes. Et que cette image de l'arabe, alors effectivement, l'arabe est souvent marginal dans cette littérature. Il est vraiment, c'est le minoritaire, alors que pourtant, il fait quand même partie du paysage quotidien d'Israël depuis les débuts. Voilà. Et il est marginalisé. Il est souvent un peu un fantôme aussi. On lui donne rarement la parole. Il dit rarement je. Hein. Il est souvent muet, comme on disait tout à l'heure. Alors, on n'a pas cité le texte d'Aleph Beth Yehoshua face aux forêts, dans lequel il y a un vieil arabe qui est muet parce qu'il a eu la langue coupée, c'est évidemment une métaphore aussi. Mais j'ai le sentiment aussi, peut-être pour conclure, que la littérature depuis les années disons plus politiques, les années de davantage d'engagement, maintenant que la situation s'est un petit peu enlisée, il faut le dire, oui. J'ai l'impression que les Israéliens, les écrivains aujourd'hui ont tendance à fuir un peu ce sujet. Oui. Donc c'est vrai que ça ressort de temps en temps, mais sur la somme de romans israéliens publiés ces dernières années, je crois qu'il y a vraiment beaucoup plus des problèmes de couple, des problèmes familiaux, des problèmes de divorce, des problèmes d'amour, tout ça. Et l'arabe, du coup, est tout à fait devenu encore plus marginal et secondaire qu'il ne l'était auparavant, j'ai l'impression.
Merci beaucoup, Toda Rava, Ariane, de ta visite chez nous.
Merci à toi, Mickaël.
Merci beaucoup, Ariane. Merci, chers auditeurs de Radio TAF. Merci, Mickaël. Et nous nous retrouvons très bientôt, les Traites.